Restez à l'écoute, voici le journal de Camille Marigaud. Bonjour Camille.
Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Un avion de la compagnie nationale pakistanaise a atterri ce matin à l'aéroport de Kaboul. C'est le premier vol commercial international depuis la prise de pouvoir des talibans le 15 août dernier. Tandis que sur place, de nombreuses ONG ont suspendu leurs activités par crainte pour leurs employés. Et puis, on reviendra sur la campagne de vaccination qui continue dans les EHPAD de la troisième dose est administrée à partir d'aujourd'hui. Un avion de la compagnie nationale pakistanaise a donc atterri ce matin à l'aéroport de Kaboul. C'est le premier vol commercial international depuis la prise de pouvoir des talibans le 15 août dernier en Afghanistan, à bord environ 10 personnes seulement, selon des journalistes sur place, comme un fragile retour à la normale économique en tout cas, alors que le pays est au bord d'une catastrophe humanitaire. Une conférence d'aide internationale s'ouvre d'ailleurs aujourd'hui à Genève pour tenter de réunir quelques 600 millions de dollars dont les Afghans ont besoin, selon l'ONU. Et sur place, de nombreuses ONG ont suspendu leurs activités par crainte pour leurs employés. C'est un reportage de notre envoyé spécial à Kaboul, Wilson Fash.
Soussane travaille depuis 17 ans à Kaboul pour une organisation internationale active dans l'éducation et la formation professionnelle. Mais désormais, leurs bureaux sont vides et cette humanitaire afghane craint le pire.
Le fait que la plupart des ONG aient suspendu leur activité suite à l'arrivée des talibans est très inquiétant, surtout que énormément de gens dépendent de cette aide. Par exemple, beaucoup d'Afghans ont entrepris des études ces 20 dernières années, mais maintenant des ONG comme la nôtre sont fermées. Personnellement, je me sens déprimée depuis l'arrivée des talibans et je me sens en danger.
Les Afghans qui ont travaillé avec des organisations internationales craignent d'être pris pour cible par les talibans. C'est le cas de cet humanitaire qui souhaite rester anonyme.
J'ai travaillé avec une ONG française pendant 15 ans. Et pour cette raison, nous avons été attaqués et mon père a été assassiné. J'ai reçu de nombreuses menaces de mort et j'ai été contrainte de m'enfermer chez moi. On m'a un jour dit que, en tant que femme, j'avais le choix entre rester à la maison ou finir dans une tombe.
Les Nations Unies craignent aujourd'hui que les talibans interdisent aux femmes de continuer à travailler avec des organisations internationales. Ce qui pourrait mettre en péril les programmes humanitaires destinés aux filles et aux femmes du pays.
En France, Alexandre Benalla face à la justice. 3 ans après le scandale et les polémiques, l'ancien chargé de mission de l'Élysée, proche d'Emmanuel Macron, comparaît devant le tribunal correctionnel de Paris à partir de 13h30. Il est jugé pour violence volontaire. C'était en marge de la manifestation du 1er mai 2018. Alexandre Benalla devra aussi s'expliquer sur l'utilisation de passeports diplomatiques après son limogeage de l'Élysée. La campagne de rappel du vaccin contre le Covid-19 commence aujourd'hui dans les EHPAD pour quelques 600 000 résidents. Elle a déjà commencé dans certains établissements privés. Pour les deux premières injections, les choses avaient été poussives avec beaucoup de lenteur provoquée notamment par le recueil des consentements écrits. Cette fois, cela devrait être plus fluide, explique Florence Arnaud-Maumet. Elle est déléguée générale de Sinerpa, premier syndicat des maisons de retraite privées.
Il y a une plateforme de commande qui a été mise à disposition et ouverte pour les 7000 EHPAD de France. À ce jour, un peu plus de 3000 établissements ont déjà commandé leurs doses et vont les recevoir cette semaine. Et puis, tout au long du mois de septembre, en fait, la plateforme de commande sera ouverte les lundis et mardis, permettant ainsi aux établissements de commander leurs doses et de les recevoir une semaine plus tard. Bien sûr que cette deuxième campagne vaccinale se prépare très différemment de la première, puisque la première, tout était très inconnu. La Haute Autorité de Santé a préconisé une procédure assez simple de revaccination puisqu'il y a quand même une visite médicale pour le résident, puis ensuite un consentement mais qui peut être donné à l'oral. Donc une procédure plus légère pour recueillir le consentement, pour aborder aussi l'automne et l'hiver 2021-2022 un peu plus serein, tranquille, puisqu'après devra se dérouler dès mi-octobre la campagne vaccinale contre la grippe.
Des propos recueillis par Pierre Pilley, alors que les soignants auront obligation d'avoir reçu au moins une dose de vaccin pour travailler à partir de mercredi. Le directeur de la PHP, Martin Hirsch, indique ce matin que le taux de primo-vaccinés dépasse les 95%. Du soleil aujourd'hui sur une grande partie du pays et de la pluie est en revanche attendue sur la pointe bretonne et les Pyrénées. Les températures seront comprises entre 20 degrés à Cherbourg et 30 degrés à Toulouse.
Vous avez eu la Covid-19 il y a plus de 2 mois ? Alors, pour être vacciné, une seule dose suffit. Lors de votre rendez-vous, n'oubliez pas de prendre votre résultat de test positif. Vous pourrez aussi réaliser un test sérologique rapide en centre de vaccination pour savoir si vous avez déjà eu la Covid. N'attendez plus, faites-vous vacciner pour passer un été en toute tranquillité. Prenez rendez-vous sur santé.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente Fraternité, conte fantastique de Caroline Guéla Nguyen. Quand une éclipse fait disparaître mystérieusement la moitié de l'humanité, ceux qui restent s'organisent pour s'entraider, survivre à leur peine et nourrir l'espoir de retrouver un jour les disparus. Après Saïgon, l'auteur et metteuse en scène nous propose une création entre science-fiction et conte philosophique. Fraternité, conte fantastique du 18 septembre au 17 décembre aux Ateliers Berthier de l'Odéon Théâtre de l'Europe à Paris. Un partenariat France Culture.
France Culture, 9h passées de 6 minutes et vous retrouvez le cours de l'histoire avec Xavier Mauduit. Bonjour Xavier.
Bonjour Camille Marigot, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le cours de l'histoire partout en France, mais partout en Europe en fait. Se préparent les journées du patrimoine, journées européennes du patrimoine, c'est le week-end prochain. Et justement, toute la semaine dans le cours de l'histoire, nous partons à la recherche de ces traces d'histoire dans la ville. Et aujourd'hui, commençons par la ville avec un V majuscule, Rome.
Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
Traces d'histoire dans la ville. À Rome, le culte impérial est gravé dans le marbre. Mais quelles sont ces statues qui peuplent aujourd'hui nos musées? Elles nous viennent de l'Antiquité, en pied, en buste, en fragments. Elles représentent des empereurs. Oui, ils sont là, glorieux, impassibles. Mais qui les a réalisées? Connaît-on le nom de l'artiste? Pourquoi d'ailleurs? Pour les Romains de l'Antiquité? Ou pour l'histoire? Pour les descendants de ces Romains? Pourquoi ont-elles été créées? Pour le culte, monsieur, pour le culte, madame. Gilles Seron, bonjour.
Bonjour.
Si vous nous accompagnez dans la Rome antique, nous voyons des statues partout dans les rues de cette Rome.
En réalité, on voit assez peu de statues dans l'espace public romain actuel. Il y en a de très célèbres, comme la statue de Marc Aurèle de la place du Capitole, sauf qu'elle a été remplacée il y a quelques années par une copie assez horrible d'ailleurs. L'original magnifique en bronze doré se trouvant au musée du Capitole lui-même, donc juste à proximité de l'actuelle copie. Sinon, il y a par exemple au Latran une très belle statue colossale de l'empereur Constantin, mais il y a très peu de statues qui sont restées en place, puisque la plupart en réalité ont été découvertes pendant les fouilles et dont, depuis très longtemps, avaient disparu l'espace public.
Mais dans la Rome antique, en revanche, les Romains qui se baladaient dans les rues de leur ville voyaient des statues.
Oui, la Rome antique était tellement submergée de statues qu'on devait parfois déblayer et en retirer une certaine quantité pour laisser la place aux autres. Donc on voit notamment dans les forums impériaux, comme le forum de César, qui est le forum proto-impérial, si on peut dire, on voit toute une file de bases inscrites. Donc c'était à l'époque, elles étaient surmontées de statues. Les statues ont disparu, mais les bases sont restées. Et en fait, il y en avait des milliers.
Les statues qui représentent des divinités se trouvent dans les temples. Aujourd'hui, elles sont dans nos musées. Étaient-elles dans les rues parfois?
Les statues de divinité, vous voulez dire?
Oui, un Apollon.
Oui, il y avait des statues de divinité qui n'étaient pas que dans les temples. Mais dans les temples, c'était des statues colossales dont il nous reste d'ailleurs assez peu d'exemples. À Rome, par hasard, on a retrouvé la statue d'une déesse Fortune dans les fouilles du centre du Champ de Mars. Et on peut la voir, cette statue extraordinaire, ces sculptures de très grande dimension, dans une centrale thermoélectrique reconvertie en musée qu'on appelle la Centrale Monte Martini. Mais c'est relativement rare, on a quand même quelques statues de culte encore conservées.
Il y a beaucoup de statues, en revanche, d'empereurs dans la Rome antique, donc dans les forums, vous nous disiez, Gilles Seron. C'est-à-dire que l'imaginaire, mais même le panorama visuel urbain de ces gens de l'Antiquité était peuplé de personnages figés dans la pierre.
Oui, bien sûr. Donc ça, c'est une vieille habitude qui remontait notamment aux Grecs, c'est-à-dire le fait d'honorer les personnages importants par des statues en marbre ou plus rarement en bronze, qui envahissaient en réalité ce que les Romains appelaient les celeberrimi loci, c'est-à-dire les lieux les plus fréquentés, donc notamment le forum, la place publique, ou les abords des monuments de spectacle, etc.
Gilles Sauron, vous êtes professeur émérite d'archéologie et d'histoire de l'art à la Sorbonne. Vous êtes spécialiste justement de toute cette symbolique ornementale, l'auteur de l'art romain, des conquêtes aux guerres civiles, aux éditions Picard. Et j'ai envie de vous faire écouter alors une réflexion sur ce qu'est la statue, la statuaire, qui ne concerne pas directement Rome, qui concerne peut-être l'ensemble de l'humanité.
Quand les hommes sont morts, ils entrent dans l'histoire. Quand les statues sont mortes, elles entrent dans l'art. Cette botanique de la mort, c'est ce que nous appelons la culture. C'est que le peuple des statues est mortel. Un jour, nos visages de pierre se décomposent à leur tour. Une civilisation laisse derrière elle ses traces mutilées comme les cailloux du petit pousset, mais l'histoire a tout mangé. Un objet est mort quand le regard vivant qui se posait sur lui a disparu. Et quand nous aurons disparu, nos objets iront au musée.
Les statues meurent aussi. En 1953, Alain Resnais, Chris Marker, les statues qui ont besoin d'un regard pour exister. Le regard que nous portons aujourd'hui sur ces statues venues de l'Antiquité est celui de visiteurs de musées. Dans la Rome antique, les femmes, les hommes, dans la rue, sur le forum, ils ne voyaient pas les mêmes statues.
Mais là, vous posez un problème, à mon avis, essentiel, hein, qui est que, disons, les musées d'art romain sont souvent très ennuyeux. Pourquoi ? Parce que la plupart de ce que vous voyez, en particulier les statues, avaient été réalisées pour s'intégrer à des décors très vastes et prenaient leur sens de leur présence dans ces décors. Or, si vous prenez ces statues hors de tout contexte, là, vous mourrez d'ennui parce que vous n'avez pas, justement, tout l'ensemble qui donnait un sens, si vous voulez. Alors, il y a très peu de musées qui essayent de reconstituer l'ensemble originel. C'est le cas, par exemple, du musée archéologique de Mérida en Espagne. Mérida, en Antiquité, c'était la capitale de la province romaine de Lusitanie. Et on avait construit là-bas des forums, plusieurs d'ailleurs. Et donc, il y a eu un effort dans ce musée d'essayer de montrer en contexte. Mais si vous prenez les reliefs ou les sculptures séparément, là, ça n'a strictement plus aucune signification.
Et puis, il y a aussi le sens à donner à une statue. Aujourd'hui, ce que nous voyons dans une statue, c'est souvent son aspect esthétique, c'est la réalisation. Dans l'Antiquité, la statue est porteuse d'un autre sens. Et d'ailleurs, Gilles Sauron, est-elle considérée comme une œuvre d'art avant tout, quand elle est produite dans l'Antiquité ?
Non, je ne crois pas. C'est-à-dire, si vous prenez les représentations d'empereurs, on ne s'attachait pas particulièrement, dans les commentaires antiques en tout cas, à l'aspect artistique. Pour les anciens, l'art, c'était quelque chose de très précis, avec des noms précis de sculpteurs célèbres, qui avaient monopolisé en quelque sorte l'histoire de l'art, et qui se voyait conférer le statut supérieur de créateur, d'innovateur. Tandis que la plupart, non, des sculptures sont totalement anonymes, privées de toute signature.
Privées de toute signature, et dès lors, parfois, il est difficile d'identifier le personnage. Pour certains, ça va, c'est évident, surtout quand il y a une inscription. Pour d'autres, c'est plus dur. Justement, Marjolaine Benaïch, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctorante agrégée de lettres classiques. Vous préparez une thèse, permettez-moi de donner l'intitulé de votre thèse, pour une archéologie urbaine du culte impérial, approche spatiale et fonctionnelle du culte dans les villes d'Italie et de Dalmatie du 1er au 3e siècle. Je vous laisse donner en revanche le nom de vos directeurs de thèse.
Oui, je travaille donc sous la direction de Madame Emmanuelle Rousseau et de Monsieur François Bérard à l'Université de la Sorbonne.
Et c'est quoi ce projet en fait ? C'est ce culte impérial qui nous intéresse en relation avec la statuaire. Il faut sans doute déjà simplement rappeler ce qu'est le culte impérial.
Alors en général, on entend donc par culte impérial les hommages et le culte proprement dit qui est rendu à l'empereur une fois qu'il est mort et qu'il a été divinisé par le Sénat. Donc, si vous voulez, les empereurs accèdent au statut divin, deviennent des divinités auxquelles on fait des temples, à qui on rend des rites. Et c'est ce type de manifestation qui m'intéresse dans ma thèse et qui m'intéresse au niveau de la ville, pour essayer de comprendre justement, comme le disait Monsieur Sauron, d'essayer de recontextualiser toutes ces statues, toutes ces œuvres qui sont liées à l'empereur et à sa famille, pour essayer de les réintégrer dans des ensembles plus concrets.
Les réintégrer dans des ensembles plus complets, parce qu'il arrive un moment où nous devons nous projeter dans cette Rome antique et sortir de la statuaire que nous voyons dans les musées, aller petite balade sur le forum de Rome avec un grand spécialiste. Alors non pas des études antiques, quoique si, le grand orientaliste Jean-Noël Robert.
Le forum qu'Auguste va faire construire à Rome, qu'est-ce qu'on y voit ? Eh bien, on y voit une place avec un portique tout autour, de style grec, oriental, et des statues. Des statues de tous les hommes célèbres, depuis Énée, depuis l'ancêtre glorieux, n'est-ce pas, le fondateur, jusqu'à Auguste. Ils y sont tous. On a réconcilié dans le marbre tous les ennemis, n'est-ce pas, Marius, Sylla, César, ils y sont tous. Et au milieu, eh bien, nous avons évidemment un groupe avec Auguste sur un quadrige en bronze doré qui représente la synthèse du passé glorieux de Rome et la légitimité du pouvoir. Un peu plus loin, Auguste a fait construire son mausolée dans le style de celui d'Alexandre le Grand. Un peu plus loin aussi, nous avons une place près de l'Arapakis, l'hôtel de la paix pour ceux qui connaissent Rome, où il y avait justement l'horologium, c'est-à-dire une espèce de cadran solaire géant avec en guise d'aiguille, de gnomone, un obélisque rapporté d'Égypte et dont l'ombre se déplaçait évidemment sur des dessins faits sur le sol pour marquer les jours, les saisons, les heures, etc. Et l'ombre de l'obélisque pénétrait dans cet édifice une fois par an. C'était le jour de la naissance d'Auguste.
Jean-Noël Robert sur les chemins de la connaissance en 1995 sur France Culture. Justement, Gilles Sauron, dans cette évocation que nous venons d'entendre, il y a cette réflexion que nous trouvons évidemment pertinente, la volonté du pouvoir de marquer l'espace, de donner sens à l'espace, de laisser des signes dans la ville.
Oui, c'est-à-dire il faut savoir que les Romains, et là on est, disons, sur un thème qui sépare un peu la culture romaine de celle des Grecs. Chez les Grecs, il y a un peu des domaines séparés. Si vous êtes philosophe, vous êtes philosophe. Vous discutez avec des philosophes, vous avez peut-être un peu d'écho dans le public, mais vous faites votre travail de votre côté. Les politiques font de la politique, les artistes sculptent ou peignent. Tandis que chez les Romains, il y a une volonté de tenir des discours et d'utiliser un peu tous les moyens pour légitimer un pouvoir, par exemple. Donc il y a sans arrêt une volonté de effectivement d'installer des signes dans l'espace public, ce qui n'était pas du tout a priori le cas des Grecs. Il y a une phrase une formule de Tacite extraordinaire qui définissait Rome comme civitas cuncta interpretans, une communauté citoyenne qui interprète tout. Et les Romains, vous savez, interprétaient les signes dans les augures, etc., interprétaient la volonté des dieux à partir de tel ou tel signe. Il y a un traité de Cicéron sur la divination où il donne beaucoup d'exemples de ces choses extraordinaires qu'il faut toujours interpréter. Les Romains passaient leur vie à interpréter. Et donc, c'est pareil dans l'espace public. On crée des décors qui portent des messages. Et moi, je voudrais insister sur un aspect qui est que beaucoup de ces messages sont totalement périmés, puisqu'ils remontent à 2000 ans, ils ne parlent plus à personne aujourd'hui. Mais il y en a qui continuent à exister. Par exemple, si... moi, j'ai un peu un dada qui est le théâtre d'Orange. Si vous prenez le théâtre d'Orange, avec les chorégies qui sont célébrées à l'intérieur, c'est un monument augustéen créé par Auguste, sur le modèle assez uniforme des théâtres qui ont été construits dans l'Occident romain à l'époque. Toutes les villes à l'époque d'Auguste, dans l'Occident romain, Italie, province occidentale, c'est-à-dire Gaule, Espagne et Afrique du Nord, ont reçu des théâtres. Et ces théâtres présentent à peu près le même modèle. Et ce modèle, assez étrangement, c'est un modèle qui a une scène permanente. C'est-à-dire que ce théâtre donnait des spectacles sans adapter le décor au spectacle. Et pourquoi ? Eh bien, probablement parce que, en réalité, la scène permanente célébrait le pouvoir augustien, célébrait le retour de l'âge d'or dans l'Empire. Autrement dit, en fait, au lieu que le décor accompagne le spectacle, le décor s'oppose au spectacle, parce que le spectacle montre la misère passée des hommes, alors que le décor montre la renaissance du monde actuel. Et il y a un pantomime, ami d'Auguste, qui a écrit sur le spectacle, sur les pantomimes, et qui a eu cette formule extraordinaire, le répertoire du pantomime va de l'origine du monde jusqu'à Cléopâtre reine d'Égypte. Pourquoi ? Parce que ce qui est montré dans le théâtre augustien, c'est toute la misère passée de l'humanité avant la renaissance de l'âge d'or, c'est-à-dire après la mort de Cléopâtre et le début du règne d'Auguste et le retour, si vous voulez, de la prospérité et de la paix.
Oui,
donc les spectateurs actuels des Corégies bénéficient encore de ce message. En fait.
C'est beau, hein, ce dialogue à travers les siècles et justement cette nécessité d'essayer de comprendre le message antique, comme vous le faites, là, Gilles Sauron. Et justement, Marjolaine Benaïch, dans ce long dialogue entre le passé, le passé romain, leur propre passé, nous voyons bien ici hein, qu'il y a cette rupture. Nous parlons d'Auguste. Bah oui, pour qu'il y ait un culte impérial, il faut qu'il y ait un empereur. Auguste est le premier empereur. Ce culte impérial est quelque chose qui ne naît pas de rien, il y a des inspirations.
Oui, bien sûr, il y a des inspirations. On trouve principalement deux modèles qui vont servir à mettre en place toute la typologie iconographique qu'on retrouve ensuite dans le culte impérial. Ce premier modèle, c'est celui plutôt des souverains hellénistiques, donc des descendants d'Alexandre le Grand, qui vont avoir des portraits extrêmement codifiés et à qui on va rendre des cultes pour certains qui sont assimilés à des divinités ou des sortes de héros. Donc ça, c'est un des premiers modèles que les Romains peuvent éventuellement avoir en tête. Et le second modèle, c'est celui des grands hommes de la République, dont les statues peuplaient, là aussi, l'espace public à la fin de la République, à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, lorsque Rome entame de grandes conquêtes en Orient, que justement ces généraux ont l'occasion d'aller en Orient et de voir ces portraits des souverains hellénistiques, de s'approprier ce type de représentation et de se faire eux aussi représenter dans l'espace public à Rome.
Il y a un transfert culturel qui est très intéressant ici avec cette adaptation, mais nous en parlons souvent de cet art venu de Grèce jusqu'à Rome, mais il y a un sens beaucoup plus profond dès qu'il s'agit du culte impérial.
France Culture.
Je ferai de Rome la merveille de tous les temps.
Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Trace d'histoire dans la ville, à Rome, le culte impérial gravé dans le marbre. Gilles Sauron, justement, nous entendions cette idée qu'il y a, à partir de cette rupture augustéenne, c'est-à-dire à partir du moment où l'Empire est proclamé, malgré tout, cette continuité de représenter des personnages. Mais là aussi, le sens change. Ce n'est plus la personne que l'on représente avec la même intention. Quand on représentait un général sous la République romaine, ce n'est pas la même intention que quand l'on représente l'empereur.
C'est-à-dire l'empereur bénéficie d'un hommage universel. C'est-à-dire il est représenté sur toute la surface de l'Empire. Et l'Empire romain, c'était, c'est varié, mais en gros 35 nations actuelles inscrites à l'Organisation des Nations Unies. Un espace énorme. Et qui a duré beaucoup d'ailleurs. Qui a duré très longtemps. Alors, il reçoit des hommages partout, mais qui sont pas forcément les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des variations. Notamment, on a énormément de témoignages en Asie mineure du culte impérial. Vous parliez de la sculpture, des monuments les plus extraordinaires du culte impérial dans le monde romain. C'est ce qu'on appelle le Sébastéion, c'est-à-dire le sanctuaire de culte impérial de la ville d'Aphrodisias, en qui les Romains, d'ailleurs, reconnaissaient une ville qui les touchait de près, puisque c'est la ville d'Aphrodite, et Aphrodite, c'était l'ancêtre des Romains, en particulier de la famille d'Auguste, enfin de la famille julienne. Et donc là, on a retrouvé une collection extraordinaire de reliefs qui célèbrent les empereurs divinisés, en particulier, puisque le culte impérial s'adressait en partie aux empereurs vivants, et en partie aux empereurs mort, mais dont certains avaient été élevés au titre de Diwi, c'est-à-dire de quasi-dieux. Ce n'était pas vraiment des dieux, mais c'était pratiquement des dieux. Donc, pour la dynastie julio-claudienne, quand Sébastien d'Aphrodisias a été construit, il y avait deux Diwi de la dynastie. C'était Auguste, Divus Augustus, et c'était Claude, Divus Claudius. Par parenthèse, d'ailleurs, Claude a été divinisé par Néron, mais à la surprise générale, puisque c'était un empereur qui passait pour plutôt médiocre, à tort probablement en partie. En tout cas, Sénèque, qui était un des grands conseillers à la cour impériale, philosophe célèbre, auteur de pièces de théâtre. Donc Sénèque avait fait circuler un petit libelle intitulé « La transformation citrouille du divin Claude », et où il parodie, si vous voulez, et il met en scène au ciel le Divus Augustus, c'est-à-dire Auguste divinisé, qui proteste en disant « il ne faut pas prendre Claude ». Et donc il y avait dans l'aristocratie une espèce de plaisanterie à l'égard de ce culte impérial, qui alors curieusement était effectivement une sorte de nécessité dans la culture de l'époque pour créer le consensus dans l'ensemble de l'Empire. Donc il fallait que tout le monde se retrouve sur des pratiques religieuses, et ces pratiques communes à l'ensemble de l'Empire, c'était le culte impérial. Et il y avait guère que les Juifs qui échappaient à cette règle, en quelque sorte, et à ce propos, on connaît un récit extraordinaire qui est celui d'une ambassade du chef de la communauté juive d'Alexandrie auprès de l'empereur Caligula. Et Philon d'Alexandrie, donc, qui a été en ambassade auprès de Caligula, nous a raconté l'entrevue. Donc ça, c'est quelque chose d'inouï. On a un récit d'un grec sur une entrevue avec un empereur à moitié fou d'ailleurs, et Caligula, alors Philon a cru qu'il n'allait pas sortir vivant de l'entrevue. Hein. Il courait après Caligula qui se baladait dans des jardins dont il aménageait les pavillons, etc. Et c'est comme ça que l'entrevue a eu lieu. Et finalement, Caligula lui a dit « Bon, écoutez, si ce sont des pauvres gens, ils ne croient même pas que je suis un dieu. » Donc, ils peuvent repartir.
Il y a une certaine souplesse dans le culte impérial, mais ce qui est formidable quand vous évoquez cette ville d'Aphrodisias, donc nous sommes en Asie mineure, la Turquie actuelle, et nous parlons de Rome bien sûr, Marjolaine Benaïch, il y a cet aspect géographique à prendre en compte dans le culte impérial, et c'est là où nous comprenons combien ces traces d'histoire dans la ville, ce culte impérial marqué par la statuaire, est important pour l'existence même de l'Empire romain.
Oui, tout à fait. On peut très certainement percevoir le culte impérial comme étant l'un des facteurs d'unité de l'Empire. Mais je pense qu'il faut distinguer aussi deux choses qui sont assez différentes et qui, en général, sont regroupées sous une même étiquette de culte impérial, puisqu'il serait, je pense, plus judicieux de distinguer ce qui relève vraiment du culte, donc de vrais rites, de sacrifices qui sont rendus à des empereurs qui ont été divinisés, qui rejoignent le rang des dieux, et ce qui concerne plutôt des hommages qui sont rendus à la famille impériale vivante, à l'empereur vivant et à sa famille, qui adoptent les mêmes codes, enfin en partie les mêmes codes iconographiques que ceux adoptés pour la représentation des empereurs morts et divinisés, ce qui crée effectivement un univers visuel qui est partagé dans tout l'Empire romain, et qui relève à la fois de cultes et d'hommages rendus à la famille impériale, mais qui adopte des critères communs, ce qui permet de créer une unité visuelle dans l'Empire.
Oui, parce que quand nous pensons à empereur et dieu, empereur divinisé, bien sûr, parfois, c'est dans l'extrême.
Dieu de Rome, puissant, éternel, sous vos auspices, Rome domine le monde. Vénus, déesse de l'amour. Mars, dieu de la guerre. Jupiter, père de tous les dieux. Et Néron, son divin fils.
Un extrait du film Quo Vadis de Mervyn Leroy en 1951 avec Néron. Mais Néron, Marjoline Benaïch, nous sommes dans un absolu délirant, bien sûr, autour de cette notion de culte impérial. Vous nous avez bien dit qu'il faut distinguer entre un culte rendu à l'empereur vivant et un culte rendu à l'empereur mort. Est-ce que cela se traduit par des différences visuelles dans l'espace de des villes romaines?
Alors oui, tout à fait. En fait, on va adopter différents types de représentations, puisque les représentations à Rome sont extrêmement codifiées, et les formats des statues qui vont être choisis vont accentuer le caractère divin ou humain de l'empereur. C'est-à-dire que, par exemple, l'empereur humain, l'empereur vivant, qu'on veut honorer dans la cité avec sa famille, va être représenté plutôt dans son rôle politique, civique, donc par exemple en toge, qui est le costume du citoyen, ou en armure pour mettre en avant son caractère militaire, tandis que dans le cas où l'empereur est un dieu, l'empereur est divinisé, on va adopter des types statuaires qui mettent en avant ce caractère divin, donc qui sont souvent des modèles empruntés à l'iconographie d'autres divinités. On connaît par exemple une série de statues d'empereurs divinisés qui sont représentées sous les traits de Jupiter, donc assis sur un trône, nus, avec simplement un drapé qui leur entoure la taille. Et ce type de représentation donne, si vous voulez, des indices qui indique aux visiteurs, à la personne qui déambule dans la ville, qu'il a sous les yeux un dieu.
Voilà, parce que au moment de regarder une statue d'un empereur, on cherche les détails, alors la toge, éventuellement, ce qu'il peut tenir dans la main, et parfois, c'est tout simplement la coiffure.
Elle s'était fait couper les cheveux comme une petite fille gentille. Elle s'était fait couper les cheveux en se disant ça m'ira beaucoup mieux, car les femmes tout comme les messieurs, parce que c'est la mode, commande, elles se font toutes couper les cheveux.
Andrex, elle s'était fait couper les cheveux parce que c'est la mode, commode, mais commode, pas l'empereur romain, Marjolaine Benaïch. Mais alors moi j'ai appris quelque chose qui m'a fasciné dans vos travaux, la chevelure est essentielle pour identifier un empereur.
Oui, tout à fait, la chevelure est essentielle pour identifier l'empereur, puisqu'en fait, et c'est d'ailleurs ce qui explique que l'empereur est, si je puis dire, la même tête partout dans l'Empire, c'est le fait que les modèles iconographiques sont en fait mis en place officiellement dans les ateliers impériaux à Rome. Donc on fixe une image standardisée de l'empereur qui passe, bon, bien sûr, par des traits physiques personnels, mais qui passe principalement par ce qu'on appelle l'indice capillaire, c'est-à-dire la coiffure de l'empereur, la manière dont les mèches de ses cheveux sont agencées et qui correspondent à des modes, à des moments de l'Empire qui permettent d'identifier à peu près à coup sûr, sauf dans le cas de citations qui sont faites à dessein, qui permet donc d'identifier les différents empereurs.
Ça, c'est l'indice capillaire. J'aime beaucoup. On peut aller même plus loin en disant que parfois, durant un même règne, l'indice capillaire nous permet de voir des transitions pour le même personnage.
Oui, tout à fait. Et on a aussi un jeu très intéressant de citations qui permet à certains empereurs d'adopter un indice capillaire qui va être une légère dérivation de celui de leur prédécesseur, justement pour mettre en avant une continuité dynastique avec son prédécesseur, si vous voulez.
Justement, Gilles Sauron.
Oui, alors un exemple contemporain très célèbre d'indice capillaire, c'est Tintin. Mais la houppette de Tintin, un précédent antique, c'est Pompée. Et Pompée lui-même avait un précédent, c'était Alexandre le Grand, qu'il voulait imiter. Alexandre le Grand avait une espèce de houppette au sommet de la tête qu'on interprétait comme une crinière de lion, enfin, qui traduisait son caractère. Et Pompée, assez curieusement, a adopté cette coiffure qui est mentionnée par son biographe Plutarque. Alors Plutarque écrit à l'époque de Trajan. Mais Pompée, donc, c'est un siècle avant. Mais, disons, Plutarque insiste sur la signature capillaire, en quelque sorte, de Pompée.
C'est super intéressant ce genre de détails parce que Gilles Sauron, nous voyons bien que ce sont ces signes que vous évoquiez tout à l'heure, ces messages à décrypter que aujourd'hui nous avons du mal à décrypter. Alors, c'est pour ça qu'il faut l'aide des chercheurs, des chercheuses. Mais dans cette idée de mettre en place un culte impérial qui est un peu figé en soi, vous, historien d'art, en regardant cette fonction de la statue sur le temps long, du culte, vous voyez des évolutions malgré tout ?
Ben, c'est-à-dire, je répète, ce culte impérial avait des formes assez diverses selon qu'on se trouvait en Occident ou en Orient, puisque les Grecs, en Asie mineure, distinguaient assez peu la divinisation de l'empereur vivant de la divinisation de l'empereur mort. C'est-à-dire, ils avaient l'habitude de traiter en dieu leurs rois, etc. Mais je voudrais insister sur un point, c'est-à-dire l'auto-célébration de ces empereurs passait par des inventions extraordinaires. Par exemple, il y a un type de monumental qui est très important dans l'Empire romain, c'est l'Arc de Triomphe. Or, l'Arc de Triomphe, originellement, était construit à Rome sur le parcours de la cérémonie triomphale. Et il en reste trois aujourd'hui bien visibles, celui de Constantin, celui de Titus et celui de Septime Sévère. Sur le parcours précisément du triomphe ou à côté du parcours du triomphe, c'est-à-dire de cette cérémonie où le général vainqueur allait rendre hommage au Capitole, à Jupiter Capitolin, en traversant Rome, en tournant autour du Palatin. Alors là, on est en présence de monuments qui célèbrent les empereurs de manière très explicite. Et je dirais même d'une manière qui pousse le classicisme à l'extrême. Si vous prenez l'arc de Titus, c'est un arc dédié au Divus Titus. Donc là, on est devant un arc de culte impérial, si vous voulez. Il est dédié à l'empereur divinisé, Divus Titus. Titus, c'est celui de la pièce de Racine Bérénice. C'est qui a régné très peu, qui a vaincu la révolte juive et qui s'est retrouvé empereur en tant que fils de Vespasien. Or, si vous regardez cet arc, tout veut dire apothéose de Titus. L'arc lui-même, l'arc symbolise le ciel. Il y a des victoires qui soulignent le fait qu'elles sont placées sous la voûte, donc la voûte c'est le ciel. On voit Titus emporté par l'aigle au centre de la voûte, donc il confirme la signification de la voûte comme étant le ciel et le monument comme étant la célébration de l'apothéose, puisqu'on le voit emporté par l'aigle. L'inscription Divus Titus, ça veut dire Titus divinisé. L'emplacement près de la route du triomphe, face au temple de son père divinisé Vespasien. Donc, vous avez même quelqu'un qui était totalement analphabète à l'époque, pouvait comprendre qu'il s'agissait de l'apothéose, la divinisation d'un empereur, puisqu'il voyait l'empereur porté au ciel. Celui qui savait un peu de latin lisait Divus Titus, mais il ne fallait pas en connaître beaucoup, etc. Donc, vous êtes là devant quelque chose où tout, l'architecture, le décor, les lettres, l'inscription, le texte, l'emplacement même, tout converge pour parler d'une chose qui est l'apothéose d'un empereur. Mais inversement, vous avez des monuments comme les colonnes historiées, qui sont une grande invention des Romains, donc comme la colonne Trajane ou la colonne Aurélienne. Or, ces colonnes présentent des frises très longues qui s'enroulent autour du fût et qui deviennent totalement illisibles à partir de la moitié de la hauteur du monument. Donc là, il y a un paradoxe que Paul Venn avait dénoué, à mon avis, de manière très pertinente, en disant que la question, c'était pas de regarder ce qu'il y avait sur la frise, mais c'était de savoir que sur la frise, dont on pouvait apercevoir les débuts, on racontait les exploits de l'empereur Trajan ou de l'empereur Marc Aurèle. Donc, la puissance même de l'empereur fait qu'il arrivait à s'offrir le luxe de sculptures invisibles dont qu'on montrait de loin, et ça c'est la meilleure expression du pouvoir, puisque l'empereur fait sculpter des choses qui ne sont même pas perceptibles par un regard humain. Et en plus, ça veut dire qu'il s'adresse aux dieux. C'est-à-dire le seul regard pour lequel ces sculptures sont faites ne peut être que le regard des dieux, ou éventuellement le regard de l'histoire, puisque maintenant on peut contempler par la photographie le détail de ces excellentes sculptures, hein, qui restent excellentes jusqu'en haut, si vous voulez.
Même si nous ne les voyons pas tellement elles sont en hauteur, mais ces colonnes sculptées Arc de Triomphe ou encore Statue sont autant de manières de développer le culte impérial. Marjolaine Benaïch, justement, dans cette approche spatiale et fonctionnelle du culte impérial, quelle est cette approche fonctionnelle? C'est quelle est cette utilité? En fait, c'est occuper le territoire, et là je reviens sur le mot spatial, un peu partout dans la ville.
Oui, tout à fait. C'est effectivement l'angle d'approche que j'ai choisi pour mon travail de thèse, qui est celui donc de la spatialité, du tissu urbain, de la construction de la ville, pour essayer de voir comment ce culte impérial et ces hommages rendus à l'empereur façonnent la mise en place de la ville, la topographie urbaine, puisqu'effectivement, on note que ce culte impérial se répand un peu partout dans la ville. Alors bien sûr, il y a des pôles de concentration de ces hommages rendus à l'empereur, qui sont évidemment ce que Monsieur Sauron évoquait en introduction, les Celebrimi Loci, les lieux les plus fréquentés, à savoir le forum, les marchés, les théâtres, qui sont évidemment les lieux où la population de la ville se rassemble. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on note que ce culte impérial se répand aussi dans des lieux qui sont parfois moins visibles, notamment des espaces privés, donc vraiment chez les gens, que ce soit donc vraiment chez les gens ou plutôt dans des espaces qui ont un statut un peu intermédiaire, qui sont ceux, par exemple, des sièges de collèges, donc des corporations, qui peuvent être des associations professionnelles ou religieuses, qui ont des espaces de réunion dans lesquels l'empereur est très présent. Et il s'agit là d'espaces de commémoration impériale qui ont un statut plutôt privé.
Un statut privé aussi pour ce culte impérial qui nous intéresse aujourd'hui.
France Culture.
C'est la honte de l'armée romaine.
Le cours de l'histoire.
Vous êtes conduits comme des barbares et comme des décadents.
Xavier Mauduit.
Si César apprend cela, il vous jettera au lion dans le cirque. Hein?
Voilà. Mais non, nous ne sommes pas avec les lions dans le cirque. Nous sommes sur France Culture et nous réfléchissons à ces traces d'histoire dans la ville et notamment toutes ces statues antiques. Mais il y a aussi les arcs de triomphe, mais il y a aussi les colonnes. Avec cette question, que représente-t-on? Représente-t-on un homme, une femme avec cette statue ou bien peut-être une idée, une vertu?
La radiodiffusion française présente Antoine et Cléopâtre dans une traduction d'André Gide. Musique d'Henri Rabaud.
Très noble reine, vous avez sans doute entendu parler de moi.
Je ne puis dire.
Assurément, je suis connu de vous.
Oh, qu'importe, monsieur, que je vous connaisse ou non. Dites, vous vous moquez, n'est-ce pas, au récit des songes de femme?
Je ne vous suis pas.
J'ai rêvé d'un empereur qui s'appelait Antoine. Oh, que je puisse dormir encore pour revoir encore son pareil.
Permettez-moi, madame.
Son visage était semblable aux cieux. Le soleil y brillait, la lune illuminant ce petit rond, la terre.
Reine très souveraine, si je...
Son pas enjambait l'océan, son bras étendu faisait ombre sur le monde. Sa voix, quand il parlait à un ami, rappelait la musique des sphères. Mais menaçante ébranlait l'air comme un tonnerre. Sa munificence n'avait pas d'hiver. C'était un continuel automne qui s'enrichissait de ses dons. Ses jeux délicieux semblaient ceux des dauphins soulevant leur dos sur les ondes. À sa suite s'empressaient les diadèmes et les couronnes. Il laissait tomber des plis de sa toge comme des pièces d'or, les îles et les continents.
Cléopâtre.
Un homme existe-t-il? Pouvait-il exister, peut-être, dites? Pareil à celui-là que je rêvais?
Chère madame, je ne crois pas.
Cléopâtre et Maria Cazares dans cette adaptation radiodiffusée en 1951 avec traduction d'André Gide. Non mais vraiment, c'est beau comme production. Justement, Gilles Sauron, dans cette évocation, alors là, nous sommes avec Antoine et Cléopâtre, le culte impérial n'est pas quelque chose de mis en place évidemment, mais nous avons cette idée de vertu, d'idée qui est portée éventuellement par la statue. Et dans cette statuaire antique, qu'est-ce qui est représenté? C'est le personnage, c'est l'empereur, ça va être... Néron, Commode, Claude, on en a cité plusieurs, ou bien c'est une idée?
Ben c'est essentiellement le pouvoir impérial, comme l'avait expliqué Marjolaine Benaïch, c'est-à-dire soit l'aspect plutôt militaire, soit l'aspect plutôt civil. On a des, par exemple, il y avait des statues au Forum de Trajan où coexistaient des représentations de l'empereur en cuirasse ou en toge. Donc il y a Et pareil, enfin, même chose pour l'arc de Bénévent, par exemple, qui est aussi de l'époque de, qui célèbre aussi Trajan. Mais, disons que ce langage, si vous voulez, est relativement compréhensible pour l'ensemble, disons, des habitants de l'Empire. La toge elle-même avait deux significations, mais que tout le monde connaissait. D'une part, c'était le symbole de Rome, c'était le vêtement romain par excellence, qui s'opposait au vêtement grec. Et d'autre part, c'était le symbole du pouvoir civil, opposition au pouvoir militaire. Donc il y a une phrase célèbre de Cicéron, qui est dans Arma Togae, que les armes le cèdent à la toge. C'est-à-dire que les militaires obéissent au pouvoir civil. Et donc tout ça était bien ancré, et donc c'est un langage assez simple. Mais il faut savoir aussi que les Romains ont, multiplié, mais multiplié les symboles. Et Auguste était, dans ce domaine, il faut dire, un champion, si vous voulez. Et alors, il y a un texte extraordinaire, qui est, le seul texte qui nous montre un Romain qui s'interroge devant un monument augustéen. Et c'est le fameux passage d'Ovide, où, exilé au bord de la mer Noire, il écrit Les Tristes, et il imagine que son livre, qui se voit refusé par Auguste toutes les bibliothèques romaines, puisque Ovide était considéré comme un épouvantable mauvais esprit, donc son livre se promène et il essaye d'aller il monte au Palatin et il voit de loin la porte de la maison d'Auguste. Or, nous savons que la maison d'Auguste était ornée d'une part de deux lauriers et d'autre part d'une couronne de chêne. Et la couronne de chêne, en fait, avait été décernée, c'est ce qu'on appelle la couronne civique, selon la formule, pour avoir sauvegardé la vie de concitoyens, hop, qui ouest, servatus. Donc, le livre arrive et il se dit, mais pourquoi il y a des lauriers? Et il fait six hypothèses. Dans le texte des Tristes, livre 3, première pièce, il y a six hypothèses faites par le livre d'Ovide. Donc, ça veut dire que les Romains eux-mêmes avaient des problèmes pour comprendre tout de suite ce que voulaient dire les symboles. Alors, sauf que là, le laurier était à proximité d'un temple d'Apollon, dédié par Auguste. Donc, les gens devaient spontanément établir un lien entre le laurier et Apollon. Et puis, pour ce qui est de la couronne civique, il dit dans ce texte, mais là, il y a une inscription. Il y a marqué « Hop, qui ouest, c'est Watos ». Donc là, je comprends ce que ça veut dire, tout de suite. Donc, s'il y a inscription, je comprends. S'il n'y a pas d'inscription, là, on fait des conjectures. Et les Romains passaient leur vie à ça. Donc, ils se promenaient dans l'espace public, ils passaient leur vie à se demander « Pourquoi il y a ci? Pourquoi il y a ça ?» Et ça, c'est une chose assez étonnante dont on a, heureusement, si on peut dire, perdu l'habitude.
Mais c'est étonnant et c'est très pertinent, surtout Gilles Seron, de se dire que les Romains de l'Antiquité n'étaient pas nécessairement aptes à comprendre certains signes qui, alors, venaient, pour certains, évidemment, du passé. Nous sommes sur une longue temporalité. Les signes laissés à un moment, eh bien, vieillissent. Marjolaine Benaïs, justement, pour le culte impérial, au moment de mettre en place une statue, quelque chose dans la ville, à qui parle-t-on? Parle-t-on aux contemporains, à ceux qui vont la voir, là, dans les jours, les semaines, les années qui viennent? Ou alors, y a-t-il une idée de se projeter dans les siècles à venir?
Alors, probablement les deux. Je pense qu'il y a d'abord un discours qui s'adresse aux contemporains, qui sont d'ailleurs les gens qui mettent en place les statues. Par exemple, dans les cités d'Italie, ce sont souvent les habitants, les magistrats qui payent pour mettre en place ces statues dans l'espace public, qui leur permettent aussi de s'honorer eux en même temps, tout en honorant l'empereur, puisque mettre en scène une inscription à l'empereur, ça suppose d'indiquer sur l'inscription qu'on a payé pour installer cette statue, donc de mettre en avant son propre statut dans la ville. Donc je pense qu'il y a une dimension très, très contemporaine dans l'installation de ces statues, mais on sent aussi qu'elles s'inscrivent dans une temporalité plus longue, puisque on voit par exemple que les groupes familiaux, les groupes statuaires qui sont installés dans les villes sont actualisés. C'est-à-dire qu'on va ajouter les empereurs successifs aux empereurs précédents, parfois en procédant à des adaptations, notamment dans le cas de certains empereurs qui font l'objet donc d'une damnatio memoriae, d'une condamnation de la mémoire, dont on efface la mémoire et qu'on remplace par d'autres empereurs. Mais on sent aussi qu'il y a une volonté de créer une continuité dynastique dans ces groupes et qu'ils s'inscrivent donc dans une temporalité assez longue.
J'aime bien l'idée d'actualiser les statuts, bah oui, parce que les familles s'agrandissent. Et puis, vous l'avez évoqué, hein, Marjolaine Benaïch, il y a aussi l'idée qu'à certains moments, les statuts de certains empereurs posent problème.
Après la mort de Commode, les imprécations du Sénat furent violentes. Quoi ? Partout des statuts de l'ennemi ? Partout des statuts du parricide ? Partout des statuts du gladiateur ? Qu'on abatte les statuts du gladiateur et du parricide ? Qu'on traîne le meurtrier des citoyens, qu'on traîne le parricide des citoyens, qu'on abatte les statues du gladiateur. Il faut abolir tous les honneurs décernés sous la contrainte à cet homme qui n'a vécu que pour la ruine des citoyens et sa propre abjection. Ces statues, où qu'elles se trouvent, il faut les abattre. Son nom, il faut l'effacer de tous les monuments privés et publics, et les mois devront retrouver les noms qui les désignaient avant que cette calamité ne se fût abattue sur l'État.
Tatiana Werner qui nous lisait un extrait de l'Histoire Auguste, la vie de Commode en l'occurrence, dans le cours de l'Histoire sur France Culture, une émission réalisée par Clément Noudier avec à la technique aujourd'hui Félix Delacour. L'Histoire Auguste, la vie de Commode, faut-il effacer Commode ? Gilles Sauron, intéressant ce texte.
Oui, alors, ce que vient de dire Mademoiselle Belaïch est très intéressant aussi sur la condamnation de la mémoire. C'est-à-dire que l'empereur qui finissait soit par le suicide, soit par l'assassinat, sa brillante carrière, hein, du genre de Néron ou de Domitien, était, effectivement, était rayé de la mémoire. C'est-à-dire qu'on gommait, enfin, on arasait son nom sur les inscriptions, et on détruisait ses portraits, mais en réalité, comme les Romains étaient relativement économes, si le portrait était en marbre, on le resculptait pour faire la tête du successeur. Donc c'est pour ça que beaucoup de têtes de Vespasien sont des têtes de Néron refaites. Enfin, un certain nombre, en tout cas, sont des têtes de Néron refaites. Et si c'était du bronze, alors on remplaçait tout simplement la tête. Mais évidemment, le bronze, ça, on peut le refondre et le réutiliser pour refaire une tête. Alors il y a un exemple assez extraordinaire, c'est ce qu'on appelle un relief de la chancellerie. Donc c'est des reliefs trouvés dans les soubassements de la chancellerie pontificale à Rome. Donc c'est le ministère de la Justice du Vatican, mais qui ne se trouve pas dans l'enceinte du Vatican. Et on a retrouvé là des plaques sculptées, des très très belles plaques, très belles, très beaux reliefs, de l'époque dite flavienne, c'est-à-dire l'époque de Vespasien, Titus et Domitien. Et on voit que la tête de Domitien, donc le fils maudit, en quelque sorte, celui qui est devenu très sanguinaire. Donc la tête de Domitien est resculptée en Nerva, donc qui est le successeur, avec une rupture dynastique. Et curieusement, la tête de Nerva, il a une toute petite tête sur son corps, parce que en fait, c'est la tête de Domitien qui a été resculptée. Donc là, c'est un cas extraordinaire de nouveau travail sur la tête, puisque ça fait une petite tête, si vous voulez, pour le nouvel empereur, en quelque sorte.
Nous entendons bien que dans cette volonté de créer des œuvres, alors qu'aujourd'hui nous considérons à juste titre comme des œuvres d'art, il y avait aussi cette idée vraiment d'utilité. Marjolaine Benaïch, il y a vraiment ça dans la mise en place du culte impérial. Ça doit être utile.
Oui, tout à fait. Ça doit être utile et ça doit être facilement compréhensible. Et on parlait tout à l'heure de l'importance du culte impérial dans l'unification de l'Empire et dans cette expansion du monde romain. Et il me semble qu'il y a effectivement un caractère proprement utilitaire du culte impérial qui permet de souder les communautés civiques, de les rassembler autour de cette figure de l'empereur.
Et puis, dans cette réflexion que nous avons, c'est vrai que cette idée de rassemblement autour de l'empereur est au cœur, en fait, de la question, Gilles Sauron.
Oui, quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, puisqu'il y a une espèce de réhabilitation de la religion romaine traditionnelle de nos jours, qui avait été méprisée en disant qu'il n'y avait que les cultes privés qui comptaient pour les Romains et pas du tout la religion publique. Mais il n'en reste pas moins vrai que ce culte impérial est une religion politique. Elle permet le consensus des différentes parties de l'Empire, de toutes les communautés civiques. Les Juifs eux-mêmes ne sacrifiaient pas à l'Empereur, mais à Dieu en faveur de l'Empereur. Donc Et c'est aussi une forme de culte impérial, si on veut, qui n'est pas un culte à l'empereur dieu ou divinisé. Mais en même temps, ça, ce qui renforçait le processus, c'est que les habitants eux-mêmes rivalisaient entre eux pour rendre ce culte, parce que ça leur donnait un statut social, ça leur donnait une espèce de aura, si vous voulez. Donc, si vous étiez au plus bas niveau, c'est-à-dire affranchi esclave, à Rome, vous faisiez, vous desserviez le culte des quartiers, ce qu'on appelait les vico magistri, les gens responsables du culte dans le quartier, qui honoraient les lards d'Auguste et le génie, c'est-à-dire l'ange gardien d'Auguste. Oui. Si vous étiez un peu plus haut, un affranchi assez riche, vous pouviez devenir séouir augustal, comme Trimalchion, par exemple, le héros du roman du Satyricon, qui est cette espèce d'affranchi parvenu, ridicule, qui veut imiter les nobles, mais il a pu accéder au sévirat. Hein, c'est six personnages qui rendent chaque année le culte, un culte, disons une forme de culte à l'empereur, mais qui ont les faisceaux. Ils ont quand même des emblèmes du pouvoir romain. Donc c'est une espèce de vanité, si vous voulez. Et si vous êtes encore au-dessus, vous pouvez entrer dans les prêtrises de la municipale ou coloniale, enfin des colonies romaines. Par exemple, on a retrouvé dans la ville de Philippe de Macédoine une belle base inscrite au nom de toutes les prêtresses de Livie divinisée. Hein, l'épouse d'Auguste est devenue une déesse sous Claude, sous le nom d'Iwa Augusta. Donc les prêtresses ont leur statut. Donc, c'est des femmes donc qui entrent dans la vie sociale par le haut, si vous voulez. Elles sont riches, elles sont dans les grandes familles, mais en plus, elles ont une fonction honorifique par le culte impérial, qui en plus leur vaut des statuts sur l'espace public de l'agora, si vous voulez.
Oui.
Donc, c'est un jeu où tout le monde, en fait, gagne, en quelque sorte. Où les villes grecques, par exemple, Smyrne, Éphèse ou Pergame, rivalisaient entre elles pour avoir le nouveau temple de culte impérial, ce qu'on appelait les néocoris. Oui.
Et Marjolaine Benaïch, justement, dans cette réflexion, le culte privé, dès lors, quelle place a-t-il? C'est intéressant de se dire qu'il y a du culte impérial qui apparaît dans l'espace privé.
Alors oui, on sait qu'il existe, mais il est finalement assez mal connu. On le sait par exemple par les textes. Par exemple, Ovide, dans les Pontiques, décrit un ensemble de statues impériales qui sont présentes, ou en tout cas de bustes, qui sont présents donc dans son atrium, donc vraiment au cœur de sa maison. Mais d'un point de vue archéologique, on connaît assez peu disons, de chapelles dévolues à la famille impériale qui seraient dans une sphère totalement privée, puisque ce qu'on connaît mieux, c'est ces espaces privés à caractère public que sont les sièges de collèges et corporations.
D'accord, donc ça veut dire que, allez-y, Gilles Sauron,
on a un exemple, hein, mais effectivement, comme vous dites, c'est très rare, c'est à Éphèse, ou dans une des somptueuses maisons des privés, donc des fesses d'époque romaine, on a retrouvé un splendide buste de Tibère et de sa mère Livie. Et donc, dans un espace privé. Mais c'est un cas totalement exceptionnel.
C'était peut-être des aficionados de la famille impériale. En tout cas, merci à l'un et à l'autre. Merci beaucoup, Gilles Sauron, de nous avoir parlé de ces traces dans la ville antique, de ces traces de l'histoire. Je rappelle, hein, l'art romain, des conquêtes aux guerres civiles. Et merci aussi beaucoup à vous, Marjolaine Benaïch. Alors, finissez bien votre thèse et nous attendons sa publication pour une archéologie urbaine du culte impérial. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscane-Viudès, Jeanne Delecroix, Anna Grimbach et Maïwenn Guizhou. Cette émission est à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Une émission à commenter sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Et n'hésitez pas à venir faire un tour sur le site du Cours de l'Histoire. Vous retrouverez tous les liens utiles sur ce qui a été évoqué pendant l'émission.